Warte!
Groovy!
Salut la compagnie! FT, la belle équipe en piste pour la récré des papous. À l'affiche, la colère de Gérard Mordilla contre les casques dans le métro et une dissertation de philo pour vous préparer à l'épreuve du bac dans un mois. Un sujet de Jacques Jouet pour Lucas Fournier.
Face à ce sujet considérable, l'auteur de ces lignes se sent habité du sentiment nietzschéen décrit dans le Crépuscule des idoles. Le ver de terre se recroqueville quand on lui marche dessus. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la prudence.
Et puis, abus de périphrases nuit-il à la compréhension. Un sujet à méditer avec les Jacques, Vallée, Jouet, Bertrand et Patrice Delbourg, suivi d'une pause tout en suppositions et de 10 mots pour des histoires pour le tirage au sort des mots, Odile Conseil.
Une ZAD de Patrice Delbourg, c'est très tendance.
Ah oui, c'est très tendance.
C'est très azibé.
Oui,
azibé,
pas zibé. Azibé. Tu vois que ça déteint.
La ZAD de zibé.
La ZAD de zibé. Oui.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Merci de votre écoute fidèle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et pour tous, le podcast sur franceculture.fr. Vous vous abonnez, c'est gratuit et ça marche. Vos réactions, c'est sur notre page Facebook qu'il faut les poster. On se lance avec un exercice de colère offert à Gérard Mordilla. Alors, quand on lui propose de râler, Gérard saisit toujours l'occasion, contre les patrons bien sûr, contre les vérandas, contre les pyjamas. C'est selon la mauvaise humeur du jour et ce qui est formidable avec lui, c'est sa sincérité. Qu'est-ce qui vous chamboule ce soir, Gérard? C'est vraiment si gênant.
Ah oui, c'est même assez grave, quoi. C'est les oreillettes. Alors, vous savez, je prends souvent, même très souvent, le métro.
Oui.
Et autant je déteste circuler en autobus, autant j'aime le métro, le RER, le train, enfin, tout ce qui va sur rail. Mais dans le métro, comme dans le RER ou dans le train, il y a des attitudes qui me défrisent.
Ah.
Et vous êtes bien d'accord avec moi que défrisé, je suis quand même beaucoup moins beau. Donc, ces attitudes, j'ose à peine les nommer de peur de me laisser emporter par la colère, sont celles des voyageuses et des voyageurs équipés d'oreillettes. Ceux-là, pourvus de prothèses, ne lisent pas, ne se parlent pas, ne regardent pas autour d'eux. C'est un bataillon de constipés de la bouche, de l'œil et de l'oreille. Un spectacle déprimant. S'ils lisaient, au moins, on pourrait lire sur leur épaule ou les aider à terminer les mots flégés. S'ils souriaient, on pourrait tenter d'engager la conversation, puis qui sait, hein? S'ils rêvaient, on pourrait voir leurs rêves dans leurs yeux et rêver avec eux. Mais non, ils préfèrent rester figés, les yeux dans le néant, comme s'ils subissaient une fouille au corps ou agités de tremblements spasmodiques, comme atteints soudain de la maladie de Parkinson. De même qu'il a fallu une loi pour interdire le tabac dans les lieux publics, sans doute faudra-t-il légiférer pour éradiquer les oreillettes et les casques dans les transports en commun. C'est urgent, je m'explique. Grosso modo, il y a deux types d'écouteurs, les petits blancs et les gros noirs. Je passe volontairement sur leurs variations colorées. Les petits aux oreillettes blanches m'évoquent irrésistiblement la ouate que les vieillards de mon enfance se mettaient dans les oreilles dès les premiers froids. Une humanité cacochime, égrottante, goutonnée et sonotone en bataille. L'horreur absolue. Le modèle noir, genre casque de preneur de son, le gros modèle, donne à ceux qui les adoptent l'allure de pauvres Mickey aux oreilles repliées, voire de malades atteints de la peste oreillique ou du chancre du pavillon. Un désastre.
Je trouve très sévère, quand
même. Oh ben non,
parce que... Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Mais non, parce qu'on peut se demander pourquoi des individus apparemment sains de corps et d'esprit nous imposent un spectacle aussi affligeant.
Oui, mais au lieu de quoi vous autoriseriez le son? Donc chacun pourrait mettre
non,
le son.
Moi, je veux tout supprimer.
Ah ben, parce que... bonjour, les libertés.
Mais qui vous parle de liberté? la liberté commence où la mienne s'arrête. Donc voilà.
Alors, vous n'êtes pas obligé de les regarder.
Non, mais j'entends. Et surtout, je me demande, mais qu'a-t-on besoin de se fourrer dans les oreilles quoi que ce soit quand on prend le métro,
hein? Bah, vous savez, il y en a qui écoutent les papous dans le métro.
Ah,
ah bah alors.
Ah, bah, oui, mais en même temps, est-ce que ça fait arriver plus vite? Non. Est-ce que d'avoir des oreillettes, ça donne droit à une place assise? Non, non, non. Est-ce que ça tue le temps? Non, non, non. Alors, pourquoi faire, hein? La réponse est désarmante. Pour écouter de la musique.
Ben oui.
Comment, je le sais, mais par expérience. Parce que plus d'une fois, leur soupe musicale, débordant leurs foutus écouteurs, a inondé la voiture et j'en ai pris avec les oreilles plus qu'avec une pelle.
Mais il a l'âme d'un tyran, Gérard Bourdin.
Mais non.
On pense qu'il est de gauche, mais en fait, il est complètement intolérant.
Écoutez, j'ai un exemple magnifique. Hein,
ouais.
On raconte qu'André Malraux avait réussi à entraîner le général de Gaulle à l'opéra. Et qu'en sortant, celui-ci l'a remercié de l'avoir fait assister au spectacle. « Je vous remercie, André Malraux. Avant ça, je croyais que la musique, c'était du bruit. Maintenant, grâce à vous, je sais que c'est prodigieusement emmerdant. » Alors, si de Gaulle disait ça de Verdi ou de Mozart, que dirait-il aujourd'hui du boum-boum à deux temps qui est l'ordinaire des écouteurs de musique en métro ? L'adverbe « prodigieusement » lui paraîtrait sans doute un peu faible. Mais oublions, parce que bon, vous avez raison, tout ça peut paraître terriblement dur, terriblement pessimiste, terriblement noir. Mais non, en réalité, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a quand même une sorte d'horizon, un espoir, quelque chose qui peut nous enthousiasmer. Parce que si chacun en convient, la cécité fait peur. La surdité fait rire. Toujours. Et gageons que, dans le futur, eh bien, on aura des générations de sourdingues et qu'on n'a pas fini de rire avec tous ces durs de la feuille qui prendront le métro, le RER, le train, etc. D'ailleurs, hein, la faculté de médecine est formelle. C'est pas la masturbation qui rend sourd, c'est les casques sur les oreilles.
C'est vrai, c'est vrai.
Oh, mais les deux ne sont pas incompatibles.
Si on se masturbe avec un casque,
oui,
deux en un.
Deux en un.
Alors, Eva, je ne sais pas si vous êtes la mieux placée pour défendre les oreillettes dans le métro, parce que vous ne prenez jamais le métro.
Oui, mais si je le prenais.
Ça vous angoisse. Ah, et donc, si vous le preniez, vous défendriez les gens qui portent des écouteurs.
Je prends bien le RER.
Ah, bravo.
Monsieur Mourdia, moi aussi je déteste les oreillettes. Ah. Vous souriez, mais ne vous réjouissez pas si vite. Ne croyez tout de même pas que je vais abonder dans votre sens. Je déteste les miennes d'oreillettes, genre petites blanches, et pas celles des autres grand bien leur face. Ces petits machins les font évader de leur quotidien, et moi du mien. Enfin, dès que je réussis à démêler les fils qui sont beaucoup trop minces, unique objet de mon ressentiment en l'occurrence. Et puis, il faut trouver le petit L pour left, oreille gauche, ou le R pour right, pour profiter pleinement du stéréo et partant du voyage. Gérard Mourdia, je m'adresse au cinéaste en vous. Avec une musique plein la tête, une fenêtre même mal lavée, voire même taguée du RER, je nique les flics, se transforme en cinémascope. Et le tunnel du métro en technicolore. Tout pour la musique, je veux dire tout par la musique. Errant sourd, si vous le dites, mais en attendant, errant voyant. Que serait Sergio Leone sans Ennio Morricone, un tas de spaghetti sans sauce. Et sans Bernard Herrmann, Vertigo de Hitchcock ne me donnerait pas le vertige. Et le docteur Jivago, sans la chanson de Lara, ah, ce serait juste Omar Sharif m'a tué. Et Pulp Fiction, sans la BO, sans Chuck Berry. Vous n'aimez pas la vue des oreillettes, mais seule cette écoute crée le spectacle. C'est la synesthésie de Rimbaud à la portée des caniches, la couleur des voyelles. J'arrive justement à Marca des Poissonniers, A noir, E blanc, l'oméga de ses yeux. Enfin, dès que j'aurai réussi à démêler les câbles trop fins de mes écouteurs. Mais chut, ce que je me mets dans mes oreilles vous ne saurez pas et ça ne vous regarde pas.
Ben oui, vous avez raison. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans le métro, Gérard ?
Eh bien, moi, je regarde autour de moi, je lis, je parle avec mes voisins, je sens d'un seul coup la proximité avec les autres, et je ne suis pas comme ça, et je donne des sous aux malheureux qui montent à chaque station, donc ça fait de l'animation.
Tous les jours, vous donnez.
Mais est-ce que tu pourrais donner ton trajet, s'il te plaît ?
Sans problème. Pont-de-Sèvres, Montreuil.
Pont-de-Sèvres, Montreuil, donc. Très bien.
Allez-y, montez dans le wagon de Gérard.
Dans la voiture, s'il vous plaît.
Un extrait de la bande originale du film Pulp Fiction.
En cinémascope, Dolby Stéréo, les Papous Nao sur France Culture.
Mais oui Gérard, jusqu'à 21h. Voulez-vous jouer avec nous à la dissertation joyeuse et de philosophie ? Dans un mois, le 18 juin, vous, les élèves de terminale générale, plancherez sur l'épreuve de philo. Et vous, les parents, vous aurez la trouille. Une épreuve encore à l'écrit pour cette année. Vous avez révisé pendant vos vacances, pendant les ponts. Vous ne regarderez pas Roland Garros, quel dommage, studieux que vous êtes, ni les matchs de poule du mondial de foot. Alors, faites une pause avec nous. Et souvenez-vous que philosopher, c'est avant tout prendre du plaisir. La situation, Jacques Jouet a préparé un bon, solide sujet. Et c'est à Lucas Fournier que reviendra l'honneur de le traiter. Un sujet qui s'appuie sur une citation dont il ne donnera que deux mots. À l'élève d'inventer la phrase à partir de ces deux mots, puis de traiter le sujet. Il lui faudra faire preuve d'imagination et c'est important d'avoir de l'imagination dans la vie, l'imagination au pouvoir, comme disaient les 68ards. Bon, c'est pas encore arrivé. Hein. Jacques Jouet, votre sujet.
Dans son livre « Fragments d'un discours amoureux », Roland Barthes écrit « Nanananana, solides, nanananana, déstalinisation ».
Oui. C'est pour vous, Lucas Fournier.
C'est costaud, là. On est dans les années 70.
À la lumière des acquis du structuralisme dans les relations interpersonnelles, vous analyserez la position de Roland Barthes en pesant finement aussi bien ce qui pourrait relever de l'enthousiasme érotico-politique que de la déception programmée.
Vous avez 24 heures, Lucas, tout va bien.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà le plan là, qui est posé, hein. Il n'y a plus qu'à écrire.
C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est un professeur sympathique. Autre chose, Jacques Jouet ? Non, c'est fini.
Moi, je n'ai pas de questions sur mon sujet.
Alors, Lucas Fournier, toutes les questions sont permises.
Non, je pense que le sujet est assez clair. C'est bien posé.
On sent le désespoir sur le visage de Lucas.
Non, Roland Barthes est bien connu ici.
Oui, Roland Barthes,
c'est un vieux complice
va.
Des Papous, donc c'est pas très difficile. Hein.
Oui.
Oui.
Bon, ils sont très forts. Jacques Vallée, vous auriez une question à poser, vous, en tant qu'auditeur.
C'est plutôt un sujet qui vous coince quand même un peu avec l'histoire de Troupion. Je pense que moi...
C'est Solilès, hein.
Solilès vous dérangez.
Oui, ça me dérange un peu parce que...
Et déstalinisation, ça vous dérange pas ?
Non.
Lucas Fournier, vous voulez bien nous rappeler le sujet de Jacques Jouet, qui était quand même extrêmement dense.
C'est un gros sujet. Hein.
Ouais.
C'est dans Fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes écrit « Nanananana, solilès, nanananana, déstalinisation ». Et alors c'est là que ça se
que
corse.
Vous avez, ouais.
À la lumière des acquis du structuralisme dans les relations interpersonnelles, vous analyserez la position de Roland Barthes en pesant finement aussi bien ce qui pourrait relever de l'enthousiasme érotico-politique que de la déception programmée, eux.
Ouais. Et alors donc, votre premier devoir, c'était de faire preuve d'imagination.
Oui, alors c'est pas le plus difficile, la citation.
Non, alors celui-là, c'est Destani. Je savais que j'allais
Désalinisation.
Et déstalinisation, ça vous inspire quelle citation?
C'est une citation politique, bien sûr. Mm. Le jour où le poulet de Brest-Litovsk sera enfin servi avec son solilès marquera le triomphe sous la belle rouge de la déstalinisation.
Oh, bravo. Oh. Ah, là. Oh, c'est déjà quelques points, non?
Je note, on verra. Après,
hein. Alors après, il faut le traiter, le sujet, alors, évidemment.
Le poulet de Brest-Litovsk, évidemment...
Oui.
Ça, c'est imparable.
Ouais.
Alors, évidemment, quand le sujet est difficile, oui. Le seul salut, c'est la fuite.
Oui.
Introduction.
Oui.
Force est de constater que les récentes réformes de l'éducation nationale, pleines de méandres syncrétiques et de vicissitudes existentielles, ont, malgré qu'en aient eu leurs auteurs, conservé l'épreuve de philosophie comme la pierre angulaire de l'enseignement français. Et chacun ne peut que s'en réjouir, tant il est vrai que le professeur de philosophie participe plus qu'aucun autre à l'édification des esprits et à l'élévation de l'âme.
Ça, c'est la flatterie pour le prof. Oui.
Ce sentiment est renforcé à la lecture du beau sujet concernant Roland Barthes, qui, dans une sorte de fulgurance, avait rapproché la production avicole et l'évolution politique de l'URSS, comme s'il avait pressenti lui-même qu'il serait emporté par une camionnette de livraison de poulets, malencontreusement déportée sur la chaussée alors même qu'il traversait hors des clous. Face à ce sujet, c'est toujours l'introduction. Hein.
Ah bon, ouais, oui.
Il faut forcer sur l'introduction. Face à ce sujet considérable, l'auteur de ces lignes se sent habité du sentiment nietzschéen, décrit dans le Crépuscule des idoles. Le ver de terre se recroqueville quand on lui marche dessus. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la prudence.
Mmh.
Oui, se recroqueviller devant le sujet. Cependant, les devoirs de notre condition étudiante nous commandent de démanteler par une lecture symptomatique la réflexion du grand Roland Barthes, l'homme au béret basque, ce qui pourrait expliquer son appétence particulière pour le poulet des Landes ou de Saint-Sever,
ah oui,
élevé en plein air et en liberté, comme le sont souvent les philosophes eux-mêmes. Comme nous y invite, c'est toujours la conclusion, l'introduction,
la pardon. Conclusion déjà.
Comme nous
il
y invite,
ça passe direct.
Comme nous y invite avec gourmandise le sujet, dans une première partie en nous éclairant des acquis du structuralisme dans les relations interpersonnelles, nous analyserons, comme le sujet nous y invite avec sagacité, à peser ce qui peut relever de l'enthousiasme érotico-politique. Puis, dans une seconde partie, nous déterminerons ce qui appartient à la déception programmée. Voilà. L'annonce de plan, ça prend déjà un paragraphe.
Oui.
Voilà.
Mais c'est vrai, je vois votre copie, une dizaine de pages au moins.
Première partie. Dans cette première partie, nous contemplons les acquis du structuralisme dans les relations interpersonnelles, autrement dit, le monde selon Barthes. Force est de constater que Roland Barthes avoue sa fascination pour le solilès. Est-ce la contemplation des hanches de Foucault ou celle de Philippe Solers, légèrement plus dodu, qui ont suscité chez l'auteur un tel enthousiasme? Non, il ne sied pas dans un exercice philosophique d'entrer plus avant dans ses détails esthétiques et personnels. Nous voici en réalité confrontés à une énigme de l'histoire de la philosophie française de la fin du XXe siècle. Qu'y a-t-il sous le solilès, sinon le signal d'un objet désiré, vu de tous et seulement convoité par les initiés, ceux qui savent, loin de la grande révolution prolétarienne, une élite qui ne parle plus aux masses. D'un côté, les nuggets et les Kentucky Fried Chicken de la pensée, de l'autre, ces solilès aristocratiques. La cuisse du poulet est populaire, comme la Révolution. Et c'est le morceau préféré de Jean-Paul Sartre. Le pilon, qui assène et qui écrase aussi la réaction, était adoré par Derrida. On sait que Simone de Beauvoir susautait les ailes du poulet.
Ah oui ?
En répétant « j'ai des ailes, je suis une mouette, Fédor Rolandovitch ». Et que si Foucault voulait foyer dans le trou du poulet, Barthès... Oh là là. Non, Barthes, pardon. Et que si Foucault voulait foyer dans le trou du poulet Barthes et non Barthès, Barthes, dans une sexualité non assumée, s'adonnait au solilès, c'est-à-dire qu'il voulait rester, lui, aux marges du désir. L'enthousiasme érotico-politique est ici adouci, endormi, voire castré. Le poulet devient chapon et, comme le disait Lacan... et comme le disait Lacan, le chapon, chapon pas.
Bon, l'élève Fournier a un petit peu bu pendant qu'il rédigeait. Parce que
non, il est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, je n'étais pas censé lire ma copie devant le jury qui m'impressionne aujourd'hui. Force est de constater que...
Mais c'est la troisième fois, force est de constater. Oui. Je me demande si ça vaut pas un petit moins un quand même.
Force est de constater que dans cette seconde partie de notre analyse, qui pointe ici, nous allons maintenant aborder la déception programmée. La mythologie, selon Barthes, n'est jamais qu'une mythonologie. Un plat que l'on mitonne, que l'on mijote, que l'on fait réchauffer, mais à feu doux. Une poule au pot, finalement trop cuite, et dont se détachent les morceaux de chair. Le solilesse s'y échappe dans la marmite commune. Le communisme devient un borch, une soupe, une tambouille. Adieu Trotsky, vive le Stroganov. C'est un autre régime. L'idéal révolutionnaire passe à la casserole. L'URSS n'est pas encore mort, mais commence déjà à perdre sa peau. Roland Barthes préférait manger tiède. Et comment ne pas penser ici au traité théologico-politique de Spinoza ?
Ah oui ?
Oui, comment ne pas y penser ?
Moi, j'y ai pensé tout de suite, moi.
Force est d'y penser,
oui. Oui, bien sûr. Et cette déception était programmée. Mais qu'est-ce qu'une déception, sinon le fait de se déprendre, d'interrompre l'acte érotique, et donc philosophique ? Barthes n'est pas Foucault, coureur de tours de taille et de taille basse. Barthes, avec son béret et son poulet basquaise, et l'homme simple dans ce qu'il a de plus singulier et d'humain. Un petit poulet qui monte l'escalier du cinquième en discourant sur l'amour sans jamais conclure. Nous avons ainsi achevé notre seconde partie. En conclusion. Comment, après un tel exercice, ne pas soutenir fraternellement le combat du corps enseignant qui souhaite maintenir vibrante dans nos programmes l'épreuve de philosophie, la plus belle et la plus noble, qui soit donnée à un élève d'accomplir ?
Alors, on termine, on a commencé avec la flatterie, oui. On termine avec la flatterie. Bon, Lucas Fournier, c'est un élève brillant, c'est foisonnant, non, Jacques Jouet ?
C'est un élève curieux, en tous les sens du terme.
Oui.
Voilà un devoir que j'ai relu plusieurs fois, que j'ai sous les yeux, très ambitieux. Mmh. Il commence comme un discours de ministre de l'Éducation nationale qui présente une réforme à l'Assemblée, et qui se termine de la même façon d'ailleurs. Mmh. Ensuite, je note que Lucas Fournier ne sait pas très bien où placer le Z dans Nietzsche. Bon, je ne vais pas lui jeter la pierre, car moi non plus, je ne sais pas bien où placer le Z dans Nietzsche. Ça, c'est pas très grave.
Entre le T et le S.
Merci. Sur le discours amoureux.
Oui.
Je pense que le devoir ne tient pas suffisamment compte du titre « Fragment d'un discours amoureux ». Ça, c'est un reproche qu'il faut lui faire. Mmh. Avec pourtant... une assez belle compréhension de cette obsession du solilesse chez Barthes. Notamment la version onaniste du solilesse qui a été développée. Et je crois une idée vraiment d'avenir pour la critique barthésienne.
Il fait un peu peur, le prof.
Il est terrifiant, il est glacial.
Sur le RSS,
oui.
J'étais surpris, comme peut-être d'autres ici, je ne sais pas, de voir passer cette URSS au masculin.
Ah oui, c'est vrai.
Mais il s'agissait de la peau de l'ours.
Oh.
Il y a des ours féminines.
Si je puis me permettre, c'est un devoir écrit, monsieur le professeur.
Il y a des ours femelles également.
Des oursonnes.
Et puis, je terminerai sur vraiment une des plus grandes faiblesses du devoir, c'est cette répétition de force et de constater.
En même temps, c'est comme un running, pas gag, parce que c'est pas trop... C'est quelque chose
prêt,
qui court.
J'étais
quand
prêt
même.
À mettre un 15, mais là...
Ah oui.
Moi, j'ai appris qu'en dissertation, il fallait commencer chaque début de paragraphe par « forcer de constater » ou alors « de nos jours
ah » oui.
ou « à l'heure actuelle ».
Ah oui.
Alors, donc, moi, si je peux me permettre.
Il faut raccrocher sur le présent, quoi.
Voilà. Où est-ce que vous avez lu ça ?
C'est ce que j'ai appris en classe. Hein.
Oh là là.
Forcer de constater qu'on apprend ça de nos jours.
Et Lucas étant un élève très studieux, il a mémorisé ça, absolument. Enfin, c'est quand même généreux, quoi, il y en a beaucoup.
beaucoup de
quoi. C'est
copieux. Beaucoup de solilesse dans un poulet.
C'est un gros poulet avec un gros solilesse.
Avec un très gros solilesse.
Donc vous n'allez pas jusqu'à 15,
non,
mais quand même.
Non, pas loin, pas loin.
14,5.
14,5, exactement.
Solide. Il est content, Lucas.
Ah oui. À la lecture du sujet, je n'en espérais pas tant.
Il faut dire que c'était très, très difficile.
Oui, on est curieux de connaître la vraie citation,
oui,
surtout.
Oui, absolument.
Mais c'est un livre difficile, vous savez. Mm. La citation est la suivante. Elle est assez simple, au fond. Vous savez, dans ce livre, Barthes raconte des petites histoires amoureuses, très quotidiennes, souvent, et puis dont il dégage peut-être des leçons plus générales. Et il dit ceci, à un moment donné...
Il parle d'un de ses amis. Il découpe très bien le poulet. C'est l'une de ses qualités reconnues et me réserve toujours le solilesse. Que j'accepte comme l'hostie du rituel, le molossol aigre et croquant de la déstabilisation.
Oui,
alors, c'est... on fait un deuxième devoir.
On se retrouve un de ces jours, Lucas.
Oui, l'année prochaine.
Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge. Vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu. Et là, enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel, tel que tu quittes la terre vers un point solitaire, constellé de pluriel. Redevenir tout simple, comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, où rien ne fait semblant. Saluer le mystère, sourire, et puis se taire.
Morane, quand elle chantait Nougaro. À noter dès ce soir notre prochain enregistrement en public au studio 105 à Paris. Il aura lieu le vendredi 8 juin à 20h et aura pour thème vacances et philosophie. Le tout à la sauce papou. Les réservations dès vendredi prochain sur maisondelradio.fr. On en reparlera. Place aux périphrases et aux périphraseurs. Jacques Vallée, Jacques Jouet, Patrice Delbourg, les périphraseurs jonglent avec le sens des mots pour les remplacer, substantifs uniquement, et gonfler ainsi une petite phrase bien claire pour lui faire prendre des allures de nouvelles. Qu'en est-il alors de la transmission du sens? C'est une question et c'est ce que nous découvrirons au fur et à mesure des différents stades de périphrasage. Et que nous contrôlerons en fin d'exercice avec Jacques Bertrand, à qui sera confié le long texte ainsi obtenu afin qu'il identifie les substantifs cachés sous les périphrases. Jacques Vallée, alors c'est vous qui ouvrez avec une phrase que j'ai choisie pour vous dans un de mes livres préférés.
Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dont le cidre restait.
Voilà, c'est une phrase de qui ?
Mon passant.
Ça pourrait, mais non, c'est Flaubert.
Oui, ben, j'allais dire.
Oh, c'est contemporain.
Oui.
C'est Madame Bovary.
Ah, oh, inépuisable.
C'est mon livre de chevet, alors, voilà. J'y reviens toujours. Donc, c'est une belle phrase. On la réécoute encore une fois. Il faut s'imprégner.
Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté.
J'aime beaucoup ce « dans le cidre resté », point. C'est beau, ouais, ça.
Ah,
hein,
c'est pas mal.
Est-ce que... dans Maupassant, il n'y aurait plus de cidre.
D'accord. Jacques Bertrand, entre vous et cette phrase qui est arrivée à Jacques Vallée, il y a ces dérivations, celle de Jacques Jouet, celle de Patrice Delbourg. Est-ce qu'il est resté quelque chose qui vous serait arrivé?
À part la noyade.
Rien, d'accord. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à cette phrase, Jacques Vallée? Quels sont les trois substantifs que vous avez choisis?
J'ai pris les mouches,
oui,
les vers,
oui,
et puis le cidre resté.
Et vous avez bien fait de prendre resté avec,
ben
le,
oui,
cidre.
Oui, parce que rester restait tout le temps, voilà, dans le, voilà, chimie, absolument, avec le cidre.
Alors, les mouches.
Des insectes séduits par tout ce qu'il y a d'agréable ou d'infect.
Bah, c'est bien vrai, ça. Hein.
Les vers, tout simple, petit récipient ou paroi translucide.
Oh là, il ne s'est pas trop cassé la tête, non, Jacques Vallée.
Et le cidre resté, le résidu du jus enivrant des pommes.
Bon, c'est assez définitionnel, ça ne devrait pas changer beaucoup l'atmosphère,
non,
pas de Flaubert. On écoute ce que ça donne.
Des insectes séduits par tout ce qu'il y a d'agréable ou d'infect sur la table montaient le long des petits récipients aux parois translucides qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant dans le résidu du jus enivrant des pommes.
On retrouve tout, le cidre, les vers et les mouches. Alors là, c'était, oui, du gâteau pour vous, Jacques Jouet. Vous n'aviez plus qu'à tout casser,
non,
qu'à tout faire exploser.
Justement, j'ai tout respecté.
C'est bien, en inventant quand même des choses.
Ah non, pas du tout.
Je rappelle la phrase de Flaubert, des mouches sur la table montaient le long des vers qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Ah, vous touchez à quoi, vous ?
Je touche à insectes,
oui,
que je transforme en êtres faibles qui ne connaissent pas toujours leur force.
Êtres faibles qui ne connaissent pas toujours leur force.
Oui, oui.
C'est
les
héros, il y a pas les moustiques, les temps, enfin, il y en a, oui, y en a beaucoup, hein, comme ça. Oui. Après.
Récipient. Là, je touche pas beaucoup. Récipient contenant pour liquide et spiritueux ouvert d'un seul côté.
D'un seul côté, ça poserait problème.
Ça devrait être assez transparent, comme la matière,
fond,
d'ailleurs,
oui,
de ces récipients.
Mm-hmm.
Et enfin, je touche à pomme à la fin du texte.
Oui.
Sphère dans lesquelles on s'abîme en situation de soudaine inconscience.
Mm-hmm. Ah, quand on tombe, oui, dans les.
Dans les.
Enfin, oui, bah, c'est joli, ça.
C'est
très,
beau,
très joli, oui. Donc, glissez vos périphrases dans le texte de Jacques Vallée.
C'est ce que je vais faire. Des êtres faibles qui ne connaissent pas toujours leur force, séduits par tout ce qu'il y a d'agréable ou d'infect sur la table, montaient le long des petits contenants pour liquide et spiritueux ouverts d'un seul côté aux parois translucides qui avaient servi et bourdonnait en se noyant dans le résidu du jus enivrant des sphères dans lesquelles on s'abîme en situation de soudaine inconscience.
Toute la phrase de Flaubert est là. Alors,
tout,
si elle ne vous est pas arrivée, Jacques Bertrand...
C'est qu'elle est passée par Patrice Delbourg.
Eh oui. Alors, qu'est-ce qui nous a fait, Patrice Delbourg?
Oh, rien.
Il
rien
a pris
de
un
bien.
Périphérique.
Non, j'ai fait une ou deux facéties, mais pas énormes. L'alcool, l'ivresse est toujours au centre du propos, quand même. J'ai choisi être faible, spiritueux,
oui,
et inconscience.
Oui.
Être faible, individu incertain de soulever leur propre poids en plume.
Ah oui, vous avez pris la faiblesse dans un certain sens, oui.
La faiblesse, fragilité, métabolique.
Manque de force, oui.
Voilà, musculaire. Spiritueux, breuvage parfois spirituel, qui peuvent même donner de la répartie à un présentateur météo. Là, je modernise l'aventure, mais bon,
oui,
quoique la météo est une science assez ancienne. Et inconscience, sentiment qui vous conduit à faire ivre ce que vous n'auriez même pas songé à entreprendre à jeun.
Ouais, on peut réentendre ça encore une fois.
Inconscience, sentiment qui vous conduit à faire ivre ce que vous n'auriez même pas songé à entreprendre à jeun.
Oui, c'est bien, vous pourriez l'expliquer, Sophie.
Oui,
bah oui, ça
c'est
la
spécialiste.
C'est l'inconscience, en quelque
ça
sorte.
Ça devient, comment on est, désinhibé, quoi.
Oui, on est exfiltré.
C'est limpide.
Elle lit Delbourg dans le texte. Alors, que devient le texte de Jacques Jouet, qui était très précis et,
oui,
qui collait vraiment à Flaubert,
hein. Il reste, vous allez voir, extrêmement sur le motif. Des individus incertains de soulever leur propre poids en plume,
qui ne connaissent pas toujours leurs forces, et séduits par tout ce qu'il y a d'agréable ou d'infect sur la table, montaient le long des petits contenants pour liquides et breuvages parfois spirituels qui peuvent même donner de la répartie à un présentateur météo, ouvert d'un seul côté, aux parois translucides, qui avait servi et bourdonnait en se noyant dans le résidu du jus enivrant des sphères dans lesquelles on s'abîme en situation d'un soudain sentiment qui vous conduit à faire ivre ce que vous n'auriez même pas songé à entreprendre à jeun.
C'est tout le début, je dirais, les trois quarts sont très clairs. Oui. Puis subitement, à la fin, il se passe quelque chose.
Ah bah, les comme un collapsus.
Ça sonne bien.
On se noie, on se noie après.
On se noie, oui.
On est monté dans les sphères. Là,
on peut réécouter quand même la phrase de Flaubert, Jacques Vallée.
Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dont le cidre restait.
Alors malheureusement pour vous, Jacques Bertrand, vous ne deviez pas dépériphraser la phrase de Flaubert, mais le texte de Patrice Delbourg.
Oui.
Donc, comment l'avez-vous empoigné ?
Oh ben, ça, il m'a paru très clair en même temps.
Ah bon ? Oui. Vous avez retrouvé toutes les périphrases ?
Oh, à peu près, oui.
Oui.
Des individus incertains de soulever leur propre poids en plume qui ne connaissent pas toujours leur force.
Oui.
Le kilo de plume, le kilo de plomb. Je pensais que c'était des gens plombés.
Des gens plombés. Ça existe, des gens plombés.
Bien sûr.
Ah oui.
Et alors, séduits par tout ce qu'il y a d'agréable ou d'infect sur la table, montés le long des petits contenants pour liquides et breuvages parfois spirituels qui peuvent même donner de la répartie à un présentateur météo.
Oui.
Traduit par « gras amateur de viandes et de liqueurs enchantées, toujours le bon mot à la bouche ».
Ah oui, ça va bien avec le présentateur météo, ça.
Il me semblait, oui.
Mm-hmm.
Et alors, ouvert d'un seul côté aux parois translucides, qui avaient servi et bourdonné en se noyant dans le résidu du jus enivrant des sphères dans lesquelles on s'abîme en situation, j'ai traduit par « s'immerger bruyamment dans les cuves de vin blanc ».
Bah, on tournait un petit peu autour.
Translucide, oui, les parois.
Oui, oui.
Puis bourdonner, le jus enivrant. Voilà.
Le jus du vin blanc bourdonne, oui. C'est ce qu'on dit en général
C'est le buveur qui bourdonne en s'immergeant.
Ah bon, d'accord, oui.
Et alors, pour le reste, en reprenant vaguement les sphères et le soudain sentiment qui vous conduit à faire ivre ce que vous n'auriez même pas songé à entreprendre à jeun, j'ai traduit par. Et l'ivresse semblait leur promettre un avenir de bois lacté.
Oh, c'est joli, ça.
Ah bah oui.
Ça, c'est très beau. Hein.
Ah bah oui.
Donc, ça donne au total des gens plombés, gras amateurs de viandes et de liqueurs enchantées, toujours le bon mot à la bouche, s'immerger bruyamment dans les cuves de vin blanc, et l'ivresse semblait leur promettre un avenir de bois lacté.
Oh, c'est trop, trop joli, ça.
C'est très
avec un peu de cidre, on fait beaucoup de choses. Hein.
Oui. Le cidre resté.
Ça grossit, la proportion est grossie. Hein, l'amour dans le verre, là, c'est
non, puis c'est plus
le bonhomme dans la cuve.
C'est plus sympathique que les mouches sur la table.
Mmh. Ah bah, bien sûr, et vous pouvez l'attribuer à quelqu'un, cette phrase.
Antoine Blondin.
Antoine Blondin, évidemment.
Grand amateur de vin blanc.
Ouais. Bon, et on peut dire qu'entre Antoine Blondin et Gustave Flaubert, il y a...
Deux stylistes.
Et ma Bovary, au fond de ta province, tu rêves au prince, il dort, le mari qui t'a donné son nom. Emma Bovary, pour qui es-tu jolie? S'en va la vie. Mais qu'un seul jour est long.
Emma Bovary par Juliette Gréco. Les Papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Au micro, Françoise Tressard et la bande des Papous du samedi soir à suivre jusqu'à 21h. Le jeu des suppositions et 10 mots pour des histoires avec Odile Conseil et Jacques Vallée. Alors, suppose que tu t'appelles. Pour chacun des joueurs de ce jeu, il faudra imaginer un nom, porteur de calembour, plus ou moins exigeant et culturel, que l'on découvrira à la fin de l'histoire. Gérard Mordillat et Lucas Fournier en piste. Gérard, à qui dédiez-vous votre histoire ?
Jacques, suppose que tu t'appelles An-An.
An-An, oh
An-an. Oui, ça me va tout à fait, mon côté Anne.
Ça te va comme un gant-an.
Tu viens de Chine, de Shanghai. À la fac, tu as rencontré une blonde aux yeux bleus dont tu es tombé fou amoureux. Tu as réussi à obtenir un visa pour la France, An-An. Et avec ta belle, vous vivez désormais votre grand amour dans un petit deux pièces à Belleville. Et il faut vraiment que vous vous aimiez, car ta belle parle mal le chinois. Elle sait compter jusqu'à 10, mais c'est à peu près tout. Et toi, An-An, tu parles mal français, même si comme elle, tu as plus de facilité avec les chiffres qu'avec les mots. Tu as trouvé un travail en cuisine au Céleste Empire, un resto ouvert jusqu'à minuit. Tu fais très bien la cuisine, An-An. Et le patron, père chinois, mère auvergnate, est très content de toi. Tu ne rechignes jamais à la tâche. Que les clients arrivent 10 minutes avant la fermeture, pas de problème, tu te remets au fourneau, An-An. Comme dans tous les restaurants chinois, les plats portent un numéro, ce qui te facilite grandement la tâche. Et An-An, quand tu reçois la commande pour rassurer le patron, pour lui montrer que tu as bien compris ce que tu dois préparer, tu lui répètes les chiffres à voix haute. 1, 16, 11, en enfer.
Oh, bravo.
Oh, c'est magnifique. Redites-nous ça.
1, 16, 11, en enfer.
Ah oui, maintenant, oui. Ah, oui.
C'est bien. Elle est assez inattendue, là.
Une saison en enfer.
Oui. C'est assez inattendu.
Ah oui, on ne l'a pas vu venir. Non, on non, se demandait, on se regardait, mais où veut-il en venir ? Lucas Fournier.
Pour Gérard, puisque on est dans le cinéma. Oui. Gérard, suppose que tu t'appelles An.
An.
An, comme le nouvel an, ou bon an, mal an. An.
An.
Tu vis à Los Angeles. Ce matin, toute la ville s'est réveillée dans la consternation. Dans la nuit, deux des lettres monumentales qui forment le nom Hollywood, sur les pentes du mont Lee, deux lettres, une voyelle et une consonne ont disparu. Ce n'est pas un lipogramme, c'est un drame. Toi, An, tu te mets en quête. Tu es un peu détective, un petit Marlowe, et cette affaire-là peut être la bonne. Tu traînes dans les bibliothèques, dans les cercles cinéphiles, dans les clubs des amis des chiffres et des lettres. Deux jours plus tard, deux autres lettres d'Hollywood ont encore disparu. On ne sait pas lesquelles. La mairie s'inquiète. C'est toute une ville, tous les studios, tout le 7e art qui est atteint. Quel est cet Hollywood piqueur de lettres ? Et ça continue. Et bientôt ne reste plus sur la colline que deux lettres à Hollywood. Alors, An, tu décides un soir de t'installer sous l'eau, enfin sous le haut rescapé, sous la lettre O, et tu attends là-haut sur la colline. Extérieure nuit, ta cigarette brille comme une luciole, et tu entends du bruit. Un homme est là qui prend l'eau, enfin la voyelle eau. Tu te jettes sur lui, tu le poursuis, vous vous battez, il t'arrache une oreille, tu lui mords sauvagement le bout du nez, mais il parvient à s'enfuir dans la nuit, laissant derrière lui les lettres. Alors épuisé, tu charges les lettres volées dans le coffre de ta Buick et tu te jettes dans le premier bar de nuit pour un verre, et un verre, et encore un verre. Demain, avec le bout de nez que tu lui as arraché, tu iras à la police scientifique et on le retrouvera. Tu te réveilles au petit matin avec une enclume au milieu du cerveau, An. Il fait chaud, il y a des mouches partout. Tu glisses la main dans la poche de ton imperméable pour récupérer le nez du coupable. Il a disparu. Et ta bagnole, An, le coffre est ouvert. Les lettres aussi ont disparu, les flics arrivent. Ils te demandent une explication, mais quel enfer ! Tu ne trouves plus de mots et tu ne sais pas comment leur dire que tu as perdu les lettres et le nez, An.
Super, magnifique.
Ah oui, les lettres et le nez.
Rocambolesque d'une histoire.
Mais oui, magnifique. Bravo, Lucas. Place aux 10 mots pour des histoires. Patrice Delbourg, Odile Conseil, Jacques Ballet, Gérard Mordilla, Eva Almassy ont écrit chacun des mots sur des petits papiers, toutes sortes de mots, et ils se retrouvent dans un chapeau, ces mots, prêts à être tirés au sort. Suspense. Odile Conseil, Jacques Ballet, vous allez jouer avec les mêmes 10 mots, c'est excitant, non?
Oh oui, alors.
Il suffit qu'un des deux refuse un mot pour que le mot soit refusé. De toute façon, à vous deux, c'est 50-50. Il ne peut pas y avoir de majorité.
Entendu.
Jacques Ballet a tiré un mot, il l'a rejeté.
Non,
il tricherait, Jacques Ballet.
Oh non,
c'est pas son genre. Allez-y, premier mot.
Odile, Porto.
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 Ah, c'est la ville.
Ville,
c'est
ou
la
boisson,
c'est ce qu'on veut. Vous écrivez tout de suite, Jacques, donc vous acceptez. Oui, oui. Odile a mis ce mot, ça ne veut pas dire qu'elle l'accepte obligatoirement. Si,
je le prends avec plaisir.
Porto et un Porto. Hein. Jacques.
Toujours Odile, vibrillonnant.
Vibrillonnant.
Ah, oui, moi je prends.
Hein, c'est déjà pas facile à prononcer, mais
prenons.
Il n'y a que du Odile alors.
Bah, je sais pas, elle travaille beaucoup, Odile.
Dit-il avec une voix.
Saint-Julien-Molin-Molette.
Un nom de lieu.
Ça vient de qui,
c'est
ça,
Mordilla, ça.
C'est moi, ça. C'est un lieu.
Oui. Ouais. Non, bah, moi, je prends pas.
Vous prenez pas Saint-Julien-Molin-Molette.
C'est trop compliqué pour moi.
Vous pouvez nous dire où il est maintenant, ce lieu?
C'est à la frontière de la Loire et de l'Ardèche.
Et c'est particulièrement joli ou c'est juste
oui,
le nom qui est formidable?
Le nom est particulièrement charmant à mes oreilles. En plus, c'est là que j'ai tourné Mélancolie ouvrière.
Ah, qui est un très beau film.
Entre le puits et Privas.
Plus près de Privas.
Alors, ensuite, puisque vous avez refusé.
Arbitrage de Eva.
Arbitrage, ma foi.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça. Allez, vous êtes refusé.
C'était une erreur d'arbitrage.
Ce n'était pas l'arbitrage vidéo. Un autre papier, Jacques Ballet.
Hybride.
Porto vibrillonnant hybride. Oui, pas facile, mais bon. Oui. Ça vous va?
Pas très aisé, mais nous
ça vient de ça vient de qui?
De Patrice Delbourg.
C'est un mot qui est dans le contexte en ce moment. Oui. Tout est hybride.
Oui, c'est vrai, c'est un mot mode.
Ah oui, mot mode.
Quatrième mot, Jacques. Allez, un verbe, peut-être. Ça manque de verbe pour le moment.
Barbouillé. Barbouiller et aimer, ça peut être ER.
Oui, je l'ai mis au accent aigu, je l'ai mis en participe passé ou en adjectif.
Ça peut être ER, barbouiller.
Ah ben, décider de la règle du jeu tout seul, Jacques.
Ouais, oui, je trouve
on
que...
vous laisse tranquille.
Oui, je trouve qu'on peut...
On peut adapter.
Adapter.
Mais oui. On n'est pas psychorigide ou pas pro.
Voilà.
Vous pouvez même faire un subjonctif imparfait, si vous voulez, ce qui serait très très chic.
Un barbouillasse.
Oui.
Ça fait du bien.
De JV.
C'est vous.
La route.
Ah, quelle route de JV.
On y va.
Prenez la route, ça. C'est un mot magnifique, la route. Alors, ben, vous avez choisi 5 mots. Vous offrez le chapeau à Odile Conseil qui va poursuivre le tirage au sort.
De ce pas, je vous dis une ZAD. De Patrice Delbourg, c'est très tendance.
Ah oui, c'est très tendance, la ZAD.
C'est Azibé.
C'est très oui.
Ah, Azibé, ouais. Pas Azibé.
Azibé. Azibé. Tu vois que ça déteint.
La ZAD de Zibé.
La ZAD de Zibé.
Oui.
Non, mais alors, ça passe partout, la ZAD.
Ah, nous avons un verbe, démolisse. Troisième personne du pluriel, déva.
Vous prenez, c'est pas mal, ça.
Oui.
Nous prenons démolisse.
Alors là, sans vous contrarier, j'aimerais assez, Jacques Ballet, que vous respectiez la troisième personne du pluriel.
Du pluriel, oui.
Eva encore, chirurgie esthétique.
Ah non.
Ça fait deux.
Allez, pas de chirurgie esthétique.
On refuse. Allez, dans le clan des refusés. Après.
Refuse Nick.
Bon, le Rubicon.
Qui est un mot de qui?
Qui est un mot de moi. Avec ou sans D. Donc le fleuve ou l'adjectif.
Le choix de l'utilisation. Ça vous plaît, Jacques Ballet, Rubicon?
Oui, c'est très bien.
Enfin, il a le choix.
Encore combien?
Allez, les deux derniers.
Allez, en voici un. Indien, d'Odile.
Oh, ça se met n'importe où, c'est pas très
Indien,
bien. Très bien
que de...
Oui, vaut mieux que de, tu l'auras.
Oui, non, oui. Non, oui.
Vous
oui,
prenez
oui,
indien
oui. C'est polysémique, hein.
Ah oui, l'été indien. Alors.
Allez, dixième mot, dernier mot.
Capuche, de Patrice Delbourg.
Tendance.
Non, ça fait trop de gamin.
Pour sauver ses mots, il dit toujours ses tendances ou ça.
Ça fait un peu trop chaperon.
Vous regardez pas le journal télévisé.
Allez, un dixième mot. Tirez-nous un personnage.
Il n'y avait pas Capuche, c'était pas un écrivain, Albert Capuche. Ah, c'est un verbe, déménager, à l'imparfait, troisième personne.
Alors,
on a beaucoup de verbes, du coup.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes contre déménager. C'est de qui, ça, d'abord?
Odile Conseil.
Oui,
peut-être qu'on peut trouver quelque chose d'autre.
De mieux, vous voulez dire?
Ça, c'était dynamique. Comme...
Non, mais on a déjà pas mal de verbes.
Odile Conseil, cochon.
Ah, c'est bien,
vous êtes bien attrapé.
Alors, vos mots, Porto, vibrionnant, hybride, barbouillé, route, ZAD, démolisse, Rubicon, indien et cochon. À vous de jouer, inventer des personnages. Alors moi, je pensais que Odile, à contre-emploi, pourrait être patronne d'une PME. Voilà, qui tient un discours à propos de la future restructuration. Donc, devant ses employés et les élus locaux. Ça vous va, Odile?
Oh, ça m'enchante.
Mais une patronne un peu dure, une vraie, le contraire de ce que vous êtes.
Non, ma vraie nature trouvera enfin s'exprimer. Je vous remercie.
Et Jacques Vallée, moi, je le vois bien au comptoir du bistrot de quartier. C'est pas un bistrot chic, C'est un bistrot de quartier, il est au comptoir. Je ne vous donne pas la position, vous pouvez être devant en train de commander ce que vous voulez ou derrière à la place du bistrotier. D'accord?
Oui, oui. Non, mais je préfère être du côté des clients, je ne pactise pas avec les possédants.
Oh, bon, c'est très bien. Eh bien, restez de l'autre côté. Odile Conseil, Jacques Vallée, pose leur stylo. C'est l'heure et vous avez joué avec des mots assez charmants, assez inspirants. Porto, vibrionnant, hybride, barbouillé, route, ZAD, démolisse, Rubicon, indien et cochon. Et cochon. Alors on commence par qui a envie de se jeter à l'eau? Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée, bon, je vous ai donné une contrainte qui était faite pour vous, c'était de vous trouver au comptoir du bistrot de quartier de votre quartier, je suppose.
Oh non, ça m'est jamais arrivé.
Non, jamais. Et donc vous avez dit tout à l'heure que vous étiez du côté du consommateur, jamais du côté des patrons.
Non.
Jamais.
J'ai toujours dit, il y a une frontière, moi je suis de ce côté de la frontière et vous de l'autre côté.
On ne se mélange pas.
Voilà.
Le mot qui déclenche l'inspiration.
C'est la route, c'est bizarre. C'est dans un bar, c'est bizarre, mais...
La route de l'alcool.
C'est pas le dernier pour la route.
Non. Allez, c'est parti.
Octave est planté devant le bar, vieil habitué, le coude usé par le comptoir. Il a commandé un porto. Le regard perdu dans la lumière des bouteilles, il écoute les buveurs qui sont agglutinés autour de lui. Un petit groupe, vibrionnant, entoure un garçon maigre au long cou, un beau visage d'Indien, empreint de gravité, avec une sorte de détermination farouche. Celui-ci raconte qu'un beau matin, il a pris la route, qu'il est parti droit devant lui. « Je ne fouillais pas un lieu, explique-t-il, ni une maison, ni des proches. » J'obéissais à un sentiment hybride de nécessité intérieure et de rencontre avec moi-même. Derrière son comptoir, le patron, un vieil auvergnat rubicon, surveille jalousement les consommations de ses clients comme la police les occupants d'une ZAD. Le jeune routard s'anime. Pendant des mois et des mois, dit-il, seul m'inspirait l'espace, la route à parcourir. Et il énumère les régions, les pays, les Alpes, l'Italie, la Grèce et au-delà l'Asie mineure, le Liban. Octave se sent penaud. Souvent, il a rêvé de partir, mais n'en a jamais eu le courage. Ses seuls voyages sont ses longues stations dans les bars, les rencontres qu'il y fait. Et ses soirées, lentement, le démolissent. C'est alors qu'un buveur un peu barbouillé renverse du coude le verre de vin de son voisin. L'assemblée s'échauffe. Le voisin curieux crie « Cochon ».
Ah, mais qu'est-ce qu'on est chic et qu'est-ce qu'on parle bien dans ce bistrot de quartier. Ouais, puis...
C'est très distingué, c'est un bistrot de quartier dans le 16e arrondissement.
Oui, avec des routards. Des routards allaient dans tous les bistrots. Hein.
Oui, oui, mais si vous continuez, il y a la bagarre derrière. Qui
oui,
arrive.
Oui.
Ce ne sont que des prémices.
Non, c'est un bel hommage au comptoir des Inks de Caradec.
De Caradec, j'y pensais, oui.
Et Giraud, tout ça.
Et que nous, on voit le serveur tout maigre, là. Oui. Ah oui, ça fabrique de l'image. Bravo, Jacques. Alors, bon, on change d'ambiance complètement parce qu'avec que dit le conseil, on est en principe dans une PME. Il y a de la restructuration dans l'air. Vous êtes la patronne. Cool, la patronne. Non, c'est pas ce que je vous avais demandé.
Ah non, non.
Non, non. Sévère, mais juste.
Bah, c'est de la restructuration, donc c'est nécessaire de toute façon. Vous savez comment est le marché, Françoise.
Je sais, le marché.
Vous savez
est
comment
exigeant.
On est accablé de tout un tas de choses en tant que patron d'entreprise.
Oui, oui.
Donc il n'y a pas moyen de faire autrement, il n'y a pas le choix.
D'accord, donc vous vous adressez...
Je m'adresse à tous les salariés.
Oui.
Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai présenté en détail au comité d'entreprise les raisons qui nous obligent à une profonde restructuration. Je voudrais ici expliquer à tous pourquoi notre entreprise... Au bon port, salut, n'a pas d'autre choix qu'une nécessaire modernisation. Elle ouvrira la route à une entreprise renouvelée, rajeunie, réinventée. Depuis 150 ans, au bon port, salut, excelle dans la transformation du cochon. Ses produits phares, le joyeux jambon et le boudin d'hélice, sont connus et appréciés au-delà des frontières. Ils ont franchi... le Rubicon et bien d'autres frontières, de Brest à Brest-Litovsk, de Porto à Porto Rico, on achète, on mange, on aime le joyeux jambon et le boudin d'hélices. Cela était vrai hier, ça ne l'est plus. La concurrence féroce que nous livrent les Chinois, les Indiens, les Australiens et même les Chiliens depuis peu a changé la donne. Le joyeux jambon est devenu trop cher pour le marché mondial. Vous en connaissez les raisons aussi bien que moi. Le coût du travail d'abord. Vos salaires, 10 à 20 fois supérieurs à ceux des Indiens. Vos congés payés, vos avantages acquis mieux, les taxes dont l'État assomme ceux qui donnent du travail. Ceux des services comptables ont récemment vu les vibrionnants inspecteurs des impôts chercher la petite bête dans nos comptes. Face à cette situation, face à tous ces éléments qui démolissent les entreprises, une remise en question profonde est nécessaire. Une nouvelle route doit être trouvée. L'entreprise ne doit compter que sur elle-même et sur moi, sa dirigeante. Personne, hélas, ne viendra installer ici une ZAD ou une JAD pour jambon à défendre. C'est pourquoi j'ai décidé un changement radical. À compter de l'année prochaine, au bon port, salut deviendra une entreprise hybride. Un établissement dans le sous-continent indien assurera la production de jambon et de boudin. Un autre à Porto assurera la fabrication de tous les sous-produits non consommables du cochon. Brosse à dents, à cheveux, crème de soins, osselets même, etc. En tant que salarié de l'entreprise, vous bénéficierez d'une priorité d'embauche sur ces deux sites, aux conditions locales s'entend. Bien entendu, des négociations s'ouvriront rapidement avec les partenaires sociaux. Je ne doute pas qu'un dialogue constructif et l'intérêt bien compris de l'entreprise faciliteront ces négociations. Je précise enfin que les cochons qui ont cru bon de... barbouiller ma voiture de boudin pour manifester d'ores et déjà leur désaccord seront sanctionnés. Merci de votre attention.
Je crois que Gérard Mordia est parti là-bas pour tourner un film parce que
absolument,
c'est pas possible. Voilà. Vous allez défendre le jambon.
Ah, je vais défendre le boudin surtout.
Ah, surtout le boudin.
Car j'aime le boudin. Et bon. Je crois que cette dirigeante vraiment.
Ah, ça fait froid dans le dos.
Ah oui.
Et en plus, combien ça vient naturellement.
Mais oui.
Oui, c'est ça qui est troublant quand on connaît le deal. C'est qu'au fond...
C'est ce qu'on appelle des liquidatrices.
Ah, je défends mon entreprise.
Voilà, c'est un autre concept, Patrice Delbourg. Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Cédric Chatelus. À podcaster sur franceculture.fr pour les échanges, commentaires, direction, notre page Facebook et Twitter où nous nous retrouvons entre amis. À samedi prochain, au revoir. Continuez à savourer une belle soirée à l'écoute des programmes de France Culture. Tiens,
Quoi?